J'aimerais bien un élément de clarification. Enfin, c'est une question vraiment de naïve, mais vous nous avez beaucoup parlé de filières, de plans de filières. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu mieux comment sont structurées les filières agricoles, comment ils cohabitent des producteurs qui pratiquent une agriculture très différente les uns des autres? J'ai bien compris que il me semble que c'est aussi un enjeu dans la discussion actuelle de la loi, c'est-à-dire que la difficulté de se mettre d'accord au niveau de la filière sur des prix de production, il y a bien un enjeu autour de ça. Enfin, voilà, c'est une question annexe, mais j'aimerais comprendre comment ça fonctionne en fait ces filières et ce qu'on peut en attendre.
Alors, le premier point, c'est que les filières sont très différentes les unes des autres dans leur structuration. C'est-à-dire que vous avez des filières courtes et des filières longues. Les filières longues intègrent l'ensemble des acteurs de la production jusqu'à la distribution, pas toutes. Elles ont dans l'approche qui a été envisagée, le rôle de se dire comment, ensemble, avec l'ensemble des acteurs concernés, on arrive à construire ces aspects sur les relations économiques et sur les évolutions qu'on a évoquées. On voit que pour certaines filières, c'est un peu compliqué, parce que la nature des producteurs peut être variable, ou la nature des distributeurs peut être variable. Vous avez grande distribution, d'autres types de distribution qui peuvent exister, la nature des intérêts n'est pas forcément la même, ou dans les zones de production. Donc c'est ces enjeux, que la diversité que vous évoquez, effectivement, au sein d'une filière, c'est ce qui est demandé, c'est de dire, regardez votre diversité, et réfléchissez sur les modes d'évolution que vous pouvez avoir en tenant compte de cette diversité. Il y a une discussion assez forte actuellement sur la construction des coûts de production, hein, c'est une réalité, avec la volonté quand même de dire aux filières, responsabilisez-vous, prenez-vous en main, c'est à vous d'examiner ces éléments, l'alternative étant de dire, si ce n'est pas les filières, on va demander à l'État de le faire. Mais c'est d'abord une question de responsabilisation vis-à-vis des filières. C'est ça qui est demandé. Donc la discussion qui peut exister actuellement porte aussi sur ces questions d'évaluation de coûts de production, le rôle que peut avoir l'Observatoire de la formation des prix et des marges, là, que j'ai évoqué, et puis la responsabilisation que prennent les filières par rapport à ces questions. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une question complexe de par la diversité des acteurs au sein d'une filière. Mais on pense quand même que si les acteurs eux-mêmes ne s'en saisissent pas, ce serait dommage après toutes les discussions qu'il y a eu.
Les pratiques de la discussion au sein d'une filière de l'agriculture, c'est quelque chose d'émergent ou il y a une longue pratique?
Les filières sont déjà structurées depuis longtemps. Hein. Le fait qu'il y ait des plans de filière n'est pas un élément nouveau dans la démarche. Certaines sont organisées en collège, vous avez un collège des producteurs, un collège des distributeurs, un collège des transformateurs. Donc cette structuration en filière n'est pas un élément nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la commande qui a été passée et la prise en responsabilisation qui l'a demandé.
Peut-être que tu pourrais donner l'exemple de filières qui ont eu de l'importance dans ce débat des états généraux. Je pense à la filière viande bovine ou à la filière laitière, enfin, qui ont été qui ont été très très présentes, avec cette grande difficulté qui a été récurrente sur le fait que, vous savez, c'est revenu tout le temps, on veut, de la part du monde agricole, on veut être rémunéré à la hauteur de nos coûts de production. Sauf que les coûts de production d'un jeune qui s'installe avec 60 vaches ne sont pas les coûts de production quelqu'un qui a remboursé tous ses emprunts et qui a un troupeau trois fois plus important, pour prendre un exemple caricatural, mais qui est sur la table et qui rend cette discussion terriblement complexe. La filière viande bovine, c'est aussi un sujet important.
Oui, donc sur la filière lait, c'est un des éléments qui était dans l'actualité, puisqu'il y avait une crise sur les prix du lait qui était récente, avec différentes approches. Le fait de dire qu'il y a certaines initiatives qui sont développées et qui sont des succès. Un des exemples, c'est l'initiative C'est qui le patron, en fait, qui est présente au niveau de la grande distribution, avec une notion de proximité avec les consommateurs qui, dans le consentement à payer, sont prêts à acheter du lait un peu plus cher parce que le lait est local, parce que... un autre exemple qui est présent, c'est la filière Comté. La filière Comté, depuis longtemps, s'est structurée, a joué sur la qualité, a joué sur une montée en gamme, ils l'ont déjà fait. Pour eux, c'est pas un problème, en fait, ils l'ont déjà fait. En se structurant collectivement, en ayant une capacité de négociation collective avec la distribution, et ça marche plutôt bien. Donc, voilà, ce que vous exprimez, c'est voilà, on a des grandes diversités de situations, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, il faut évidemment prendre en compte ces différents aspects, parce que par ailleurs, dans d'autres zones, on est plus dans la production de masse, de lait, avec les problèmes de débouchés qui peuvent exister. On peut ici évoquer le bio. Pour la filière lait, le marché du lait bio est en extrême croissance, à tel point qu'on est obligé d'en importer. Donc comment la filière se saisit de cette question pour accompagner la demande du marché. Pour la viande, la filière viande, c'était un petit peu différent. Il y a des réflexions. Donc le marché de la viande est en baisse en France, c'est clair, même c'est à peu près général en Europe. Donc voilà comment la filière évolue par rapport à cette baisse de la consommation. Donc c'est aussi des éléments qui ont été abordés dans le plan de filière. Les éléments du bien-être animal sur lesquels il y avait déjà des réflexions dans la filière ont été saisis de manière un peu plus forte. Donc là aussi, il y a... sur le bio, je peux prendre exactement le même exemple. La filière bio... on a une forte demande sur le porc bio, on est déficitaire, on est obligé d'importer. Donc voilà, comment la filière répond à cet enjeu en termes d'évolution de production. Je pourrais parler aussi des poules pondeuses, donc la filière avicole, où là, sur le bien-être animal, il y a une évolution radicale sur l'évolution de l'élevage, des conditions d'élevage, avec la mise en avant du plein air, qui renvoie à des questions d'évolution sur les bâtiments, qui ont été modifiés il y a 5 ou 6 ans, de par... un certain nombre de dispositifs qui existaient, donc des investissements majeurs qui ont été faits par la profession, qui ne sont pas encore amortis, et qui doivent maintenant réinvestir pour refaire des modes de production qui répondent à la consommation. Donc vous voyez que ça se rajoute. Et donc, ce sont ces éléments-là, la filière a intégré et prend en compte, et donc en renvoyant au grand plan d'investissement d'avenir, dans les différents dispositifs qui sont proposés, ce sont des éléments qui sont mis en avant pour dire, par rapport à ces évolutions dans les différentes filières qui répondent aux besoins de la consommation, voilà les dispositifs qui peuvent vous accompagner. Parce que dans certains cas, c'est quand même assez compliqué en termes d'investissement financier.
Question. Oui, madame.
Oui, je me demandais, enfin, en vous écoutant, Frédéric Parade au Conseil régional des Hauts-de-France. J'ai été frappée dans votre présentation et également dans celle de M. Garraud, en fait, du décalage qui existe entre la façon dont est construite la politique nationale de l'alimentation dans un monde en fait très structuré, très technique, en fait, avec quand on voit au niveau local le bouillonnement d'initiatives. Qui existe, enfin, il n'y a plus un projet de territoire qui n'a pas une partie alimentation, c'est des choses, plein d'acteurs qui ne sont pas du tout spécialisés, que ce soit dans le monde social, dans le monde du numérique, de l'environnement, etc. Tout le monde parle d'alimentation, et en fait, on voit bien que c'est quand même de monde sociétal, on a même parlé sur les crises sanitaires, c'est quand même pas mal des lanceurs d'alerte, etc., qui les ont mises en évidence. Et en fait, à quel point, quand on entend les présentations de ce matin, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de connexion entre ces deux éléments. Alors, on a évoqué la question du territoire, hein, mais juste au travers d'un dispositif, en fait, qui est vraiment très intéressant. Mais c'est vrai que les projets locaux sur l'alimentation, ils n'ont pas forcément attendu que l'État saisisse d'un dispositif. On dit... Et du coup, j'ai du mal, voilà, à voir comment cette articulation va se faire. Enfin, bon, après, on va avoir d'autres questions.
Autre question, c'est un point très très important que vous soulevez là, sur cette articulation politique nationale, dynamique locale.
Ça rejoint un peu ce que vous disiez, oui, par rapport à votre difficulté à travailler avec une plateforme participative, peut-être, et puis ce manque d'imagination que vous avez vous-même trouvé, vous avez trouvé que ça pêchait.
Je pense quand même, je prends la parole sur ce sujet parce que je pense que c'est un élément extrêmement important. En fait, vous avez ce sentiment d'un complet décalage, mais en réalité, si on prend aussi bien la loi sur l'agroécologie, la loi d'avenir qui a été portée par Stéphane Le Foll dans la précédente mandature, que ces états généraux de l'alimentation, en réalité, s'ils surgissent et si l'État s'en saisit, c'est d'abord parce que, en fait, il y a une impatience des territoires. Si vous prenez ces deux objectifs, ils sont pas d'abord sortis des états-majors parisiens. C'est très net. En fait, c'est des remontées de terrain qui font que l'État se saisit à un moment donné, ou le politique se saisit de cette thématique. Je le redis, ces États généraux, ils sont appelés États généraux de l'alimentation. Ils ont été très très largement, je crois qu'on peut le dire, quand même, occupés et pris en main par les organisations agricoles autour justement du partage de la valeur, parce que c'était un sujet politique très très important. Mais il n'empêche qu'au départ, ils étaient bien imaginés comme état général de l'alimentation parce que c'était une question qui était bien plus société civile que la question d'un secteur professionnel ou industriel d'ailleurs. C'était bien comme ça qu'ils étaient pensés. Alors après l'articulation, il y a eu quand même cette tentative. Il y avait une diapo là sur le nombre d'événements qui sont passés dans les régions, dans les départements, qui a été très important. Mais je prends vraiment, par exemple, quand l'affaire des programmes alimentaires territoriaux, c'est pas une invention parisienne. C'est la mise en forme à un niveau national, c'est une conceptualisation d'expériences locales très diverses autour de l'articulation alimentation-territoire. Vous voyez, il faut un peu retourner le... Alors après, vous, sur le terrain, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes complètement dépossédé de ce qui se passe par cette conceptualisation un peu abstraite et nationale, mais en réalité... Vraiment, je crois pouvoir dire que c'est quand même parti de l'avant. C'est pas l'inverse. C'est pas, si vous voulez, c'est pas. Si vous prenez ces questions-là, c'est pas un concept national qu'on a essayé de diffuser. C'est absolument l'inverse. C'est des expériences locales, territoriales, qui nourrissent un discours politique et qui essayent de le conceptualiser.
Oui, si je peux compléter sur cet aspect. Quand on a regardé les éléments qui étaient discutés dans les ateliers, on a regardé les comptes rendus qui revenaient des éléments régionaux, hein, que vous avez évoqué, 74 événements régionaux. Une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on a raté quelque chose dans les ateliers? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont pu faire ressortir des initiatives locales, etc. Bon, dans la grande majorité des cas, peut-être à une ou deux exceptions près, c'est très, très concordant. Et c'était très intéressant parce que ça voulait dire que des personnes indépendantes, à des niveaux sans doute différents, national ou régional, finalement évoquaient les mêmes sujets, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux de manière indépendante. Donc ça, pour nous, en termes de robustesse, ça a été très intéressant de voir qu'il y avait, cette concordance. Sur la partie plateforme, donc c'est un petit peu différent. Alors on a parlé de manque d'originalité, il y en a eu sur la plateforme. Hein. Pour l'anecdote, on a eu une proposition pour dire qu'il fallait développer la culture de cannabis chez les agriculteurs pour produire de la valeur. Donc, bon, voilà.
Donc, par rapport aux filières de deux ans.
Bon, donc, voilà, on peut. Il y en a eu d'autres. Mais là, on est dans un registre un petit peu différent. Mais en tout cas, plus sérieusement, pour les questions de gouvernance, parce que c'est ça qui sera dans la partie suivante, la dimension locale et régionale sera effectivement extrêmement importante dans les différentes initiatives qui existeront. Les régions sont autorités de gestion sur un certain nombre de fonds structurels pour accompagner des évolutions. Donc c'est clair qu'il y a aussi des enjeux en termes d'accompagnement. Et puis également en termes de déroulé dans les ateliers, on a souhaité aussi régulièrement avoir des acteurs des territoires qui viennent témoigner de leurs initiatives. J'ai en tête un exemple très précis d'une filière locale collective qui s'était développée dans le département de la Drôme avec l'accompagnement d'une collectivité locale qui était remarquable, avec le bémol près que ce qui était présenté était très intéressant mais pas forcément généralisable sur l'ensemble du territoire pour des conditions de ce qui avait été mis en place, de particularités locales. Mais voilà, on a aussi cherché à trouver des sources d'inspiration dans ces exemples.
Oui.
Valérie Gomez, je suis commissaire du Massif Central. Alors pour le cannabis, ça va sûrement se faire sur la Creuse, donc c'est pas évident. C'est une forte demande et a priori ils ont des actions. Ouais, ma question c'est ce foisonnement d'initiatives locales, de marques locales. Vous avez parlé de qui c'est pas trop. Il y a énormément de projets locaux qui aboutissent, hein, de gros projets, mais en termes de visibilité et notamment pour le consommateur, vous êtes devant un rayon de blé, notamment en région de montagne, vous allez avoir 10 marques locales. Donc voilà, comment ça va se réguler, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de régulation?
On n'a pas entendu dans les états généraux une demande excessive de régulation. On a entendu une demande d'information pertinente pour le consommateur. Alors, je rebondis juste sur ce qu'a dit Guillaume Garot tout à l'heure, là, sur les dispositifs numériques qui permettent maintenant d'accéder à l'information sur certains produits. Il y a déjà des choses très évoluées, il n'y a même plus besoin de scanner le code barre, les applications reconnaissent l'emballage et vous donnent des éléments sur la nutrition, sur l'origine, sur l'empreinte climatique, on arrive à tout avoir. Et je pense que c'est plutôt ça qui fera les éléments différenciants, c'est-à-dire qu'au début, il va y avoir un foisonnement, effectivement, d'initiatives, et le marché va probablement faire qu'il y a quelques éléments qui subsisteront. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais quels critères utiliser, enfin, ça c'est un avis personnel, hein. Moi je pense qu'il y a un moment quand vous avez des innovations qui se développent, il faut laisser la créativité et progressivement le marché se concentre vers les éléments les plus pertinents. Mais en résumé, pas de demande de régulation, mais par contre une demande d'accompagner ces acteurs qui sont innovants et créatifs.
Autre commentaire, oui.
Je passerai la parole s'il y a d'autres questions, mais en vous écoutant, je me demandais, j'aurais bien envie d'avoir, si vous pouvez, un petit éclairage comparatif, c'est-à-dire que je me demandais si ces questions de partage de la valeur au sein de la filière, c'est des questions particulièrement sensibles en France, du fait notamment de la structure de la distribution, ou est-ce que c'est des questions qui se posent chez tous nos partenaires, et à ce moment-là, comment est-ce qu'eux, ils abordent et ils règlent ces questions?
Alors, ça mériterait peut-être une autre intervention, un autre moment. Mais sur les questions qu'on a abordées, on a plutôt eu le sentiment qu'on était regardé par nos partenaires, ceux qui nous entouraient, dans cette démarche, plutôt que nous disant « mais chez nous, tout va bien et on n'a pas de problème ». Parce que les problèmes qu'on évoque...
Oui, vous en regardez. Vous n'avez pas regardé, je crois.
Pardon. Non, mais dans l'atelier qui était consacré aux aspects internationaux, évidemment, il y a des questions qui ont été évoquées. Mais je pense aussi qu'il y a des éléments de structuration qui sont propres à notre pays, qui ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres zones. Et voilà, on peut pas si on compare, il faut comparer toutes choses égales par ailleurs. Et toutes choses égales par ailleurs sur ces questions-là, c'est pas forcément évident.
Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'autre pays où il y a une telle concentration de la grande distribution. Et c'est ce qui rend la situation originale par rapport aux autres pays d'Europe, et notamment qui pose la question de la distribution de la valeur en raison de la concentration de la grande distribution. Oui.
Justement, enfin, une question qui rejoint un peu la précédente. Enfin, je reviens sur l'objectif d'inverser la formation des prix par les agriculteurs en partant des coûts de production. Donc du coup, enfin, si je comprends bien, on laisse les professionnels quand même se mettre d'accord là-dessus en leur demandant d'inverser la logique. Mais est-ce que au-delà de ça, enfin, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, est-ce que l'État a vocation à être arbitre? Et deuxième question, si on inverse les règles du marché, est-ce que c'est compatible avec la réglementation européenne, quoi, en fait?
Alors, sur la deuxième partie de votre question, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est un des points, ça renvoie aux questions de droit à la concurrence qui a été regardée de manière très précise pendant la discussion. Donc, la réponse est oui. Par contre, sur la première question, je ne vais pas répondre parce que c'est un des éléments du débat parlementaire en ce moment.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, mais j'ai quand même, si vous savez. J'ai quand même évoqué tout à l'heure que le message était une demande de prise en responsabilisation des filières sur ces questions. Parce que sinon c'est facile. Sinon c'est facile, vous êtes filière, vous dites on a discuté, on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors c'est à l'État de décider, et puis après c'est l'État qui décide et ça ne marche pas. Il y a un moment, il faut responsabiliser.
C'était ça l'esprit de la charte là, qui a été signée? Non.
Non, la charte, c'était de dire, dans la période transitoire, comment on travaille ensemble sur les questions de relations commerciales.
Oui.
Là, la question est beaucoup plus précise et technique, c'est comment...
Oui, comment on arrive
voilà.
À... Comment on
y a... Voilà.
Oui.
Je voulais revenir sur ce que vous disiez justement sur la demande des agriculteurs de partir de leur production pour établir un prix. Et vous faisiez le parallèle entre les jeunes agriculteurs qui ont des lourds investissements et des agriculteurs qui ont... qui sont
en vitesse de croisière.
Mais je trouve que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce qu'en fait, dans n'importe quel autre secteur marchand, dans l'industrie par exemple, vous avez exactement le même phénomène, c'est-à-dire des gens qui, quand ils arrivent, ils investissent. Or, je ne vois pas pourquoi dans l'agriculture, on n'arriverait pas à résoudre ce problème alors qu'on l'a bien résolu ailleurs, enfin, quand toutes les entreprises fonctionnent. Et je n'ose croire non plus qu'un ancien agriculteur n'a pas réinvesti régulièrement, vous le disiez, pour maintenir sa façon de produire à niveau.
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que dans les autres secteurs, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a eu un choix initial qui a été fait basé sur le constat que vous avez une proportion significative d'agriculteurs qui vit, je crois, avec moins de 500 euros de revenus par mois. Et est-ce qu'on continue à avoir cette situation, qui est une situation un peu particulière. Mais la base de la démarche, elle est là. Alors, voilà. On ne sait pas, mais il y a quand même eu un choix au départ là-dessus.
Est-ce que ça ne vient pas de la spécificité de la mainmise de quelques acteurs économiques simplement sur le marché de l'alimentation? Est-ce que ça ne vient pas de ça tout simplement et
ça peut jouer, mais je ne pense pas que ce soit l'unique explication, puisque j'ai donné tout à l'heure l'exemple du côté, mais il y en a d'autres, qui montrent que dans certains cas, il y a des évolutions de montée en gamme. Hein, générique qu'on utilise pour dire qu'il y a des producteurs qui se différencient, qui créent de la valeur, qui sont avec des signes de qualité reconnus, qui arrivent à évoluer dans ce monde extrêmement concurrentiel. Donc c'est possible. Et c'est ça qui est le message aussi qui est envoyé.
Oui, madame.
J'aimerais vous entendre un petit peu aussi sur la politique à l'école commune. Parce qu'on a plusieurs pays européens qui souhaitent des évolutions, justement ayant le sentiment que peut-être que des agriculteurs français bénéficient de beaucoup d'aides. Moi, j'ai aussi en tête quelques exemples où les aides européennes peuvent représenter parfois sur certaines exploitations une part importante des revenus aussi. Alors, est-ce qu'on est dans la création de valeur ? Ça va être un peu de s'interroger, parce que il y a une politique à l'école commune aussi, on se situe dans cet environnement. Alors j'ai bien compris qu'on était sur les états généraux de l'alimentation et pas de l'agriculture, mais peut-être si vous aviez un éclairage sur ce
point. D'une part, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je vais juste faire un constat, je pense que vous partagerez avec moi, c'est que quand on regarde l'évolution de la politique agricole commune depuis sa mise en place, on constate quand même que dans les vagues récentes, il y a une prise en compte de certains enjeux qui n'étaient pas pris en compte avant. Je fais référence notamment au deuxième pilier, qui renvoie à des questions de prise en compte des enjeux environnementaux et d'éléments liés à ces éléments qui sont une demande sociétale. Donc l'évolution de la PAC, me semble-t-il, accompagne. Alors après, on peut discuter est-ce que c'est suffisamment rapide ou pas, mais ça renvoie à la vitesse de l'évolution que j'ai évoquée. On constate quand même que ça intègre ces éléments. Que sera la prochaine période qui commencera en 2021 ? Là, je n'ai pas d'éléments là-dessus. Mais voilà, je pense que si on regarde avec le temps, la PAC d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans. C'est clair. C'est plutôt bon signe. Après, je vous dis, la question de la vitesse d'évolution, elle est toujours discutable.
C'est évident que la PAC, elle représente en gros entre 40, en moyenne, hein, entre 40 à 50% du revenu disponible. Alors sur les chiffres, c'est comme le chiffre là, de 500 euros qui serait la somme sur laquelle on avait évalué à combien c'était le nombre. Pourcentage d'agriculteurs, c'était 20%, je crois,
20-25.
Bon, personnellement, moi, je suis assez suspect sur ce chiffre, parce que c'est un chiffre qui a été délivré par la Mutualité sociale agricole, et que on ne prend pas en compte le fait que c'est non, mais on prend en réalité. Dans ce calcul, le reste à vivre, et non pas la réalité du revenu, le fait que la famille est logée, les transports, le téléphone, les communications, etc., rentrent dans la comptabilité de l'exploitation. Donc il faudrait comparer ce qui est comparable avec un ménage de salarié qui a son loyer, son téléphone, sa voiture, son machin, son truc, ses assurances, etc. Donc je trouve que ce chiffre n'a pas éclairé le débat, qu'il a plutôt apporté de la confusion dans le débat. On sait très bien qu'en fait, ces familles, s'ils n'avaient véritablement que 500 euros pour vivre, pour faire vivre toute la famille, ça ne marcherait pas. Donc là, il y a eu un biais. D'ailleurs, la MSA est obligée quand même de reculer un peu sur cette histoire, parce que ce n'est pas une information. C'est typique, je trouve, des informations. Ce n'est pas véritablement une fake news. C'est pas bon. C'est tout simplement un chiffre qui n'est pas explicité. Il n'est pas faux. Le chiffre n'est pas faux. Il n'est pas faux. Sauf qu'il n'est pas défini. C'est tout. Et c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème et qu'il n'y ait pas de pauvreté en milieu rural. Ça, c'est clair. Mais il faut aussi l'évaluer. Alors, le deuxième sujet sur la politique agricole commune, il est, si vous voulez, actuellement, on est toujours, depuis 92 quand même, hein, dans une politique qui consiste à apporter des aides directes à l'hectare pour compenser les prix garantis qui étaient les prix garantis jusqu'en 92. Donc, vous savez qu'en 92, quel a été le dispositif ? On a dit on se met sur les marchés mondiaux pour être plus compétitif. D'abord parce que l'OMC l'exigeait, et ensuite pour qu'on soit de plein pied avec des marchés à l'export. Comme ça représentait une baisse de revenus considérable, on a dit, bon, ben, on va calculer, puisque ça concernait quand même beaucoup les céréaliers, la différence de revenus en se basant sur le parcellaire, ce que toucherait l'agriculteur si on maintenait une garantie des prix, et ce qu'il va toucher en supprimant cette garantie des prix, et on va transformer cette garantie, ce différentiel, en aide à l'hectare. Alors, cette aide à l'hectare a fait que les régions les plus riches ont eu des aides à l'hectare plus favorables que les régions qui étaient déjà un peu en retard. Donc, les différentiels, depuis 1992, ont continué de s'accroître. Ça n'est pas pour rien dans le fait que le problème ne se pose pas de la même façon sur l'ensemble des régions françaises. Et quand, vous savez, la dernière politique agricole commune, il y avait une clause de convergence, qui est un vrai sujet, grand sujet politique qui est sur la table et qui va faire de grandes difficultés, qui fait déjà de grandes difficultés dans la discussion, c'est clause de convergence aux échelons nationaux et clause de convergence entre les pays eux-mêmes. Hein, puisque depuis 1992, on a eu l'intégration des pays de l'Europe centrale et orientale qui n'ont pas bénéficié des mêmes dispositifs de soutien à l'hectare, et aujourd'hui, que ce soit la Pologne, la Tchéquie, mais aussi la Roumanie, mais surtout c'est surtout la Pologne qui est en tête sur ce combat-là, dit, mais enfin, combien de décennies va-t-il falloir attendre pour que l'aide à l'hectare soit la même en Pologne et dans le bassin parisien ? Mais pour qu'elle soit de la même, et à budget constant, pour qu'elle soit la même dans le bassin parisien, dans la Couche-Tard ambroise ou en Pologne, ça veut dire au moins une diminution par deux des aides pour la France, au moins. Hein. Donc vous voyez, donc avec un budget qui serait plutôt en diminution, et ces clauses de convergence qui sont, d'où une question qui est posée, de savoir est-ce que on passe de ces aides à l'hectare à une autre façon de poser la place de cette politique agricole en Europe et notamment d'en faire une politique alimentaire et pas seulement une politique agricole. Mais manifestement, le débat n'est pas encore mûr là-dessus. Hein, il a déjà été retoqué la précédente fois. Mais on a ceci pour dire en deux mots quand même les très très grosses tensions qui sont sur la table autour de la réforme de la politique agricole commune. Il y a deux tensions, si vous voulez. Le fait qu'on donne des aides à l'hectare sans véritablement de contrepartie, alors qu'il devait y avoir des contreparties environnementales, elles sont quand même assez minimes. Et deuxièmement, la question de la convergence des aides entre les pays, qui est là un sujet de grande tension politique entre les pays. Vous allez en entendre parler, hein, parce que ça va être extrêmement difficile. Oui, madame.
Juste pour revenir en disant que quand on vous écoute, on se dit que dans une économie de marché, ça veut dire qu'il y a toute une partie des productions françaises qui n'ont plus leur place, en fait, qui ne sont pas économiquement viables si elles ne sont pas aidées. Ouais. Or, je me dis que si on prend ce schéma-là, cela ne passe-t-il pas également au-delà du fait de l'indépendance à nourrir la population française, en une partie, l'aménagement du territoire également, c'est-à-dire toutes ces terres agricoles, on en fait quoi ?
Oui. Je pense que si vous mettez vous soulevez le problème de fond qui est la légitimité de la politique agricole. Et il est évident que nos pays, mais alors c'est pas seulement la France, qui est pourtant un des pays les plus doués du point de vue climatique, du point de vue agronomique, du point de vue des sols en matière de production, si nous ne soutenons pas nos productions, effectivement, sur le marché mondial, on tiendra pas le coup. Enfin, il y a une vraie légitimité. Mais la question qui est posée, c'est quel sens on donne à ce soutien à l'agriculture. Clairement, la question de la capacité de production ayant été dépassée, si vous voulez, les problèmes, ce sont précisément les problèmes que nous posons aujourd'hui. C'est-à-dire comment vous articulez davantage la production agricole aux attentes en matière de santé, en matière de nutrition, en matière d'environnement, Et donc, ce qui est attendu et qui est très difficile à mettre en place, c'est comment on rémunère les agriculteurs, non pas pour compenser des baisses des prix, mais pour un service matériel ou immatériel qui rende à une société qui les attend là-dessus. Et à ce moment-là, ça c'est une vraie difficulté, parce que au fond, en disant ça, vous réanoblissez le métier d'agriculteur, puisque vous en faites un métier qui produit à la fois des biens matériels, des biens immatériels, des biens marchands, des biens non marchands, et que c'est la puissance publique, à travers un projet politique, qui vient rétribuer ce que le marché ne rétribue pas, mais que pour autant les citoyens attendent. Bon. C'est-à-dire, c'est pas extrêmement difficile à comprendre conceptuellement. Bon. Donc, comment, après, on le construit à partir d'un budget pour que, effectivement, l'agriculteur, à travers une approche contractuelle, une approche de cahier des charges, soit non pas soutenu, non pas aidé, non pas compensé, mais rémunéré pour un service non marchand qu'il rend. Comment on arrive à passer, à franchir ce pas politique qui est extrêmement difficile à franchir.
Sachant que dans les inégalités, il y a la santé et la qualité de la production, et aussi l'aménagement paysager.
Ah, mais il y a l'aménagement paysager, il y a la qualité de l'air, il y a la qualité des eaux, la qualité des sols, des sous-sols. De tout ça, on est en train de s'apercevoir. Si vous voulez, hein. C'est extrêmement long à mûrir. Il y a exactement 20 ans, je peux témoigner, donc j'étais à ce moment-là conseiller de Louis Le Pinsec, qui a proposé une loi qui a été votée, et qui proposait aux agriculteurs un contrat, qu'on appelait un contrat territorial d'exploitation, précisément pour évaluer les aménités non marchandes qui étaient rendues, et les rétribuer par un contrat. Bon, alors, cette affaire, là on est sur des problèmes d'alternance politique, c'est-à-dire que ça a marché pendant cette législature, et puis la suivante n'a pas suivi. L'ambition et l'espoir, c'était qu'on arrive à faire passer cette idée contractuelle à l'échelle européenne, ce qui aurait permis de sortir d'une compensation et d'une automaticité, et puis de remettre le territoire au cœur de l'évaluation. Alors on évolue, parce que on voit bien dans les enquêtes, il en sera peut-être question cet après-midi dans les exposés, on constate progressivement l'émergence d'un consentement à payer de la part soit des consommateurs, soit des collectivités sur la réalisation de ces aménités que le marché ne peut pas... à ce stade. Peut-être que dans 50 ans, le marché le rémunérera, mais pour le moment, en tout cas, pas encore. Et donc, si on veut les avoir, il faut les rétribuer. Voilà, mais ça, c'est pas tout à fait dur.